Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin la secrétaire d'État chargée du handicap, Sophie Cluzel.
Bonjour Sophie Cluzel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. Vous venez nous dire quelles sont vos priorités pour l'école. Mais un petit mot d'abord, si vous le voulez bien, sur votre journée d'hier. On parle souvent des footballeurs comme des enfants gâtés, attirés par la patte du gain, la vie facile. Est-ce que les trois joueurs du PSG, que Yves doit bien connaître, Silva, Areola, Rabiot, qui sont venus jouer hier avec une équipe de footballeurs en fauteuil, vous en donnez une autre vision de ces stars du foot?
Complètement, une autre vision. Ils avaient d'abord les yeux pleins d'admiration de voir les athlètes qu'ils avaient en face d'eux, qui étaient des joueurs de foot en fauteuil, parce que c'était des personnes handicapées, lourdement handicapées pour certains, et qui avaient un talent extraordinaire à faire bouger leur fauteuil, à marquer des buts. Ils se sont mis en situation aussi de fauteuil.
Ils sont assis dans les fauteuils.
Oui, ils ont joué avec eux. Et ils ont été bluffés par l'expertise de ces joueurs handicapés. Et en fait, la rencontre a été très intéressante. Et c'était vraiment très enrichissant de voir ces deux mondes, les fauteuils et les debouts, comme ils s'appellent, pour se rencontrer.
Ça sert à quoi? Est-ce que c'est utile, au-delà du plaisir, effectivement, qu'on donne à ceux qui sont sur le terrain et évidemment aux personnes handicapées qui participent à cette partie avec les stars?
Moi, ça sert à changer le regard sur le handicap.
Ça sert vraiment?
Bien sûr, ça sert à voir les personnes avec des aptitudes et non plus des inaptitudes. Ça sert à avoir des gens qui sont eux-mêmes portés par leur volonté de réussir leur sport. Et le sport est un vecteur d'intégration, d'émancipation sociale merveilleux. Donc, c'est un vrai rapprochement.
Vous serez tout à l'heure, Madame la Ministre, à 10h dans une école parisienne avec Jean-Michel Blanquer. On se remet en mémoire la promesse de campagne d'Emmanuel Macron?
Je créerai tous les postes d'auxiliaires de vie scolaire pour que les jeunes enfants vivant en situation de handicap puissent aller à l'école.
Alors, 3 mois après la rentrée, Sophie Cluzel, c'est fait? Tous ces enfants sont à l'école ou pas?
Les enfants sont à l'école. Pour certains, ils n'ont pas d'AVS encore, c'est vrai, parce qu'il y en manquera toujours des AVS. Tant qu'on sera sur un système précaire, avec des contrats aidés, le système ne fonctionne pas, les budgets ont été sanctuarisés, les budgets scolaires, on a des problèmes de recrutement.
C'est ça la faille, c'est le statut précaire des auxiliaires de vie. Précaire, c'est-à-dire que c'est pas le problème, c'est pas seulement la question de la rémunération, c'est combien par mois
c'est
un
AVS. SMIC horaire.
C'est le SMIC horaire. C'est pas seulement ça, c'est que ils n'ont pas de perspective. Ce sont des publics très difficiles à fidéliser à cause de la précarité et la fragilité du statut. Voilà.
Alors en fait, pour la moitié des accompagnants, ils sont en contrat aidé. Et on n'arrive pas à recruter, les budgets sont là, on n'arrive pas à recruter parce qu'il y a des bassins, par exemple, de recrutement qui ne proposent pas de candidats. Donc tant qu'on sera sur ce système précaire, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'on veut aller vers une professionnalisation des accompagnants et qu'avec Jean-Michel Blanquer, on va annoncer ce matin des mesures très précises pour pallier à ces dysfonctionnements.
Professionnalisation, c'est-à-dire que ces personnes doivent être recrutées sous contrat éducation nationale, c'est ça l'engagement?
C'est ça l'engagement. On va accélérer ce recrutement. Plus 11 200 postes à la rentrée de septembre. C'est-à-dire qu'on accélère de 4 800 postes par rapport à la Conférence nationale du handicap de 2016. Donc on accélère la tendance pour justement basculer sur une vraie professionnalisation. Donc des contrats qui seront beaucoup plus pérennes parce que ce sont des contrats éducation nationale. On va accélérer aussi la formation. Donc ça, c'est très important.
La formation de ces personnels.
De ces personnels, avec un diplôme qui a été créé il y a plus d'un an. Donc le vivier de recrutement va s'ouvrir pour pallier justement à ces problèmes de recrutement.
Alors ça, c'est une annonce importante. Autre priorité pour vous, c'est que les enseignants, théoriquement, sont formés à l'accueil des handicapés par un module universitaire pendant leurs études. Peu le sont en réalité, pourquoi?
C'est l'autonomie des universités. Dans chaque cahier des charges, il faut qu'on aille vérifier qu'il y a bien ce module initial de formation. Mais bien au-delà, c'est la formation continue qu'il nous faut améliorer.
Mais pourquoi est-ce que c'est un peu négligé pendant les études? C'est pas prioritaire, disons les choses.
Je pense qu'en effet, c'est pas prioritaire et on veut le rendre prioritaire.
C'est une variable d'ajustement dans la formation des profs, quoi.
On peut le dire comme ça, si vous voulez, quand les emplois du temps sont surchargés. Et c'est vraiment ça qu'on veut changer. En faire vraiment une formation initiale imposée et surtout obligatoire. Et puis surtout, la formation continue de ces enseignants au cœur du système d'une école inclusive. Parce que si on fait reposer que sur le professeur sans l'accompagner lui-même, on n'y arrivera pas.
Je voudrais évoquer un sujet un peu tabou peut-être, parce que c'est pas agréable à entendre, mais c'est vrai que les parents d'enfants non handicapés sont réticents. Ils ne veulent pas forcément qu'il y ait des handicapés dans la classe de leurs enfants. C'est très bien pour celles des autres, mais pas celles de leurs enfants. Il n'y a pas un frein quand même de ce côté-là?
Bien sûr qu'il y a un frein. C'est pour ça qu'il faut qu'on change le regard sur le handicap. Et puis c'est surtout que l'on montre que cette école inclusive, elle fait la place à toutes les différences. Parce que ce n'est pas l'enfant handicapé qui pose souvent un problème. Ça peut être aussi l'enfant qui a des troubles de comportement, mais qui n'est pas dit handicapé. Ça peut être l'enfant. Donc il faut arrêter d'opposer les enfants les uns aux autres.
Mais dire le handicap, c'est toujours chez les autres, c'est jamais chez soi.
Alors ça, c'est vrai. Ouais. Le regard est toujours, on porte à côté et on le détourne. Mais je pense qu'on peut faire justement d'une école inclusive une force en mutualisant les ressources et en montrant justement que quand il y a un enfant handicapé, il y a beaucoup plus de ressources, il y a des adaptations pédagogiques qui servent au plus grand nombre. Et ça, tous les professeurs le disent.
Par exemple, adaptation pédagogique, c'est important parce que les enseignants qui vous entendent disent, c'est pas facile de faire la classe pour 20 élèves. Voilà, comment on dit, 20 élèves non handicapés, et puis les autres, ben, ils n'ont pas le même rythme, ils n'ont pas besoin de la même pédagogie. Comment ils font les profs dans ces cas-là?
Alors déjà, les profs, sur les CP, le dédoublement des classes va servir aux élèves handicapés. Mmh. Ça, c'est très important, parce que quand vous avez plus que 12, 13 élèves, 14 élèves en face de vous, y compris l'élève handicapé, vous avez toute la latitude pour faire de la pédagogie adaptée. C'est bien ça, l'importance des mesures qui ont été mises en place pour Jean-Michel Blanquer.
Mais qui
elles
concernent
vont
pas,
servir,
ouais, qui
elles vont servir à tous les élèves handicapés.
Mais qui ne concernent pas toutes les classes, loin s'en fout encore. Hein.
Non, c'est pour ça qu'on veut renforcer la formation, on veut mettre une plateforme numérique, ça Jean-Michel Blanquer va l'annoncer, une plateforme numérique d'appui justement pour trouver les ressources sur les adaptations pédagogiques. Il y a énormément de ressources, le problème c'est la connaissance de ces ressources. Aussi des personnels ressources experts, formateurs experts sur les problématiques d'adaptation pédagogique. Mais il n'y a pas que ça aussi, il y a toute la technologie qui doit venir au service des élèves handicapés et au service du plus grand nombre dans la classe. On ne se sert pas assez des outils numériques, de tous les logiciels qui existent. Donc c'est cette mise en synergie vraiment en mouvement de l'école au service de tous et qui va servir à tous. Et je pense que du coup, les autres parents vont voir comme un bonus d'avoir un enfant handicapé dans sa classe.
On verra, il y a l'accueil en petite section qui est importante et puis il y a ceux qui peuvent aller jusqu'à l'université, mais ils sont très peu nombreux. Que se passe-t-il dans l'intervalle à l'éducation nationale pour qu'on en perde autant en route?
Alors, il y a une vraie usure sociale des étudiants handicapés parce que ça devient compliqué de pouvoir se déplacer dans les universités, d'avoir accès à une vie sociale, à un logement, quand on doit être un élève à mobilité réduite ou qu'on a des troubles sensoriels, c'est-à-dire un déficit visuel ou auditif, ça devient compliqué. Donc, il faut qu'on accompagne beaucoup mieux ces étudiants handicapés. Comment Frédéric Vidal et Jean-Michel Blanquer et moi-même, nous travaillons justement à la mise en place d'ambassadeurs, un peu d'ambassadeurs d'accompagnement des étudiants handicapés sous forme de services civiques qui vont se déployer en 2018 et 2019 pour accompagner, mettre en situation la plus optimale possible de réussite d'études des étudiants handicapés.
Donc des services civiques qui vont être dédiés à l'accompagnement de ces élèves qui accèdent à l'enseignement supérieur, mais pour lesquels finalement le handicap est de plus en plus lourd à mesure qu'ils progressent dans l'école. C'est d'autant plus important que le chômage est plus lourd chez les personnes handicapées et que c'est le problème basique, c'est le problème de base, c'est justement la qualification.
Complètement. 500 000 chômeurs, personnes handicapées, deux fois moins qualifiées que les chômeurs dits valides. Mmh. Donc on a un vrai enjeu. On travaille avec Muriel Pinicaud justement sur la réforme, sur la grande concertation qui est lancée sur la réforme de l'apprentissage. Seulement 1% des apprentis sont handicapés, alors qu'on sait que 70% des contrats sont transformés en contrats durables dans l'apprentissage. On a un vrai levier de montée en qualification des étudiants handicapés, un vrai levier de montée en qualification et d'accès à l'emploi à travers l'apprentissage.
Parmi toutes les mesures dont vous aviez parlé pour l'emploi des personnes handicapées, vous aviez évoqué on va dire un rite plus anglo-saxon que latin, le duo day, c'est-à-dire quoi, une journée par an où les entreprises devraient justement accueillir des handicapés sur tous les postes, travailler en doublon, vie ma vie un petit peu, c'est ça?
Ça c'est une mesure que nos amis européens, notamment irlandais, ont lancée. Je dirais que c'est une mesure phare, c'est un peu une mesure vitrine si vous voulez, pour faire cette rencontre entre les deux mondes. Mais l'accès à l'emploi, c'est surtout l'emploi accompagné, le job coaching qu'il nous faut développer. Ça c'est un vrai levier anglo-saxon aussi, ou au Canada, ils le travaillent énormément, c'est-à-dire accompagner la personne vers l'emploi, mais surtout accompagner l'entreprise. C'est l'entreprise qui a besoin d'être accompagnée, comme ce sont les profs qui ont besoin d'être accompagnés aussi sur comment fonctionne une personne handicapée.
Et c'est votre sujet aujourd'hui. Un petit mot encore, votre fille travaille toujours aux cuisines de l'Élysée.
Au service de l'intendance.
Au service de l'intendance, ça se passe bien.
Ça se passe bien, oui. Bon.
Et Brigitte Macron, justement, à propos d'Élysée, souhaitait s'engager sur ce dossier du handicap. Ça va se concrétiser?
Ça, c'est déjà le cas. Hein. Nous faisons des sorties communes. Elle est très complémentaire, justement. Elle s'adresse aux Français. Les Français ne se sont pas trompés. Hein. Pendant la campagne, ils l'ont vraiment identifiée. Elle reçoit énormément de courriers sur des problématiques
c'est
de
utile.
Handicap.
C'est utile que la Première Dame s'implique
bien
comme ça.
Bien sûr, c'est utile.
Un affichage, c'est au-delà du gadget, si je puis dire.
C'est totalement complémentaire. D'abord, les Français ne se sont pas trompés. Je vous dis, les courriers vont vers elle. On travaille ensemble pour la résolution, justement, des problématiques. Et ce qu'elle veut, c'est montrer les bonnes pratiques. Nous sommes allés ensemble à Nantes voir un restaurant tenu par des jeunes trisomiques, totalement. Et c'est un regard qu'elle porte, justement, sur les capacités et les compétences. Donc, c'est important de mettre en valeur, justement, ces réussites.
Merci beaucoup, Sophie Cluzel. Vous parlez des trisomiques. Votre fille, hein, je l'évoquais, justement, souffre de ce léger handicap. Et elle travaille, donc, à l'Élysée, pas loin de la Première Dame et du Président. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir fait ces annonces en faveur de l'école et du handicap.
En tout cas, il faudra qu'on aille faire un reportage à Nantes parce que je pense que ce restaurant doit être intéressant. Pour les fameux auxiliaires de vie scolaire, on a les budgets mais on n'arrive pas à recruter, vient de nous dire Sophie Cluzel. C'est pourquoi nous allons créer des postes à l'éducation nationale avec Jean-Michel Blanquer. L'ensemble de l'interview est à retrouver sur le site rtl.fr.